Bonjour, bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale, un nouvel invité sur Fréquence Diagonale, c'est un blogueur présent sur Internet depuis plus de 10 ans, Fabrice Touvran. Salut Fabrice.
Salut Stéphane, bonsoir, tu vas bien?
Oui, ça va très bien. Alors ton blog s'appelle donc Échec et Fab, chronique d'un joueur d'échecs, hein, c'est ça, hein?
Ouais, alors en fait il a eu deux grandes étapes dans sa vie. En 2005 c'était Échec et Fab. Donc c'était, je me lançais sur Canal Blog, c'est un collègue de travail qui m'avait présenté ça. Et il a été scratché malheureusement par un inconnu néfaste, on va dire. Et je l'ai relancé en 2010, après 5 ans, donc, et c'est devenu Chronique d'un joueur d'échecs, que maintenant tout le monde connaît, enfin dans le Var surtout, et qui est un des plus vieux blogs de France, effectivement, au niveau échecs.
Oui, c'est vrai, c'est un des plus vieux blogs de France que je suis avec intérêt. Je suis abonné au flux RSS, hein. C'est, que je conseille à nos auditeurs d'ailleurs, hein, si vous ne connaissez pas le principe, renseignez-vous, les flux RSS, il n'y a rien de mieux pour suivre toutes les sources qui vous intéressent. Exactement. Et donc ce blog extrêmement intéressant, fourni avec beaucoup de sujets intéressants, y compris les sujets d'actualité, y compris tes propres aventures de joueur d'échecs aussi, hein.
Ouais.
Voilà, et on va voir qu'il y a aussi des choses tout à fait intéressantes dans ton actualité, puisque tu as sorti un livre dont tu nous parleras eh bien, en fin d'émission, hein. On consacrera toute une partie à ce livre.
Le partage du roi, oui.
Voilà, le partage du roi, les échecs, on va dire, particuliers, hein, puisque tu as mis l'accent sur un aspect fantastique du jeu, on dirait, hein,
je crois, il faut dire. Un peu méconnu malheureusement par les joueurs, alors que ça peut apporter énormément.
Voilà, donc on va voir ça. Alors, tout d'abord, dans cette première partie, puisqu'on parlait de ton blog, et ensuite on parlera aussi du VAR, là où tu joues et là où tu commets des échecs et maths en pagaille.
Où j'ai le plaisir de vivre, parce qu'il y a un cadre de vie qui est très agréable.
Ouais, et le plaisir de vivre aussi, puisque c'est une magnifique région, bien sûr, de la région de PACA. Et donc, alors, ce blog chronique d'un joueur d'échecs que tu mets à jour régulièrement, il a une histoire, et puis il raconte aussi des histoires. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu nous racontes les deux. Quelles histoires sont racontées sur ton blog depuis tout ce temps? Quels ont été les grands moments d'abord? Donc voilà, donc est-ce que tu peux déjà...
Il y en a eu quelques-uns, oui. Bah, au début, en fait, mon blog, je l'ai lancé parce que j'avais un regret, c'est qu'il y a une époque pas si lointaine, il était très difficile de trouver des photos de joueurs d'échecs. Ouais. Ne serait-ce que du simple pote que tu vois en train de jouer au national, en passant par un grand maître que tu admires. Et il y avait beaucoup de mal, on avait beaucoup de mal à trouver des photos. Et en fait, c'est comme ça que j'ai dit de commencer le blog, c'est-à-dire parce que je suis photographe amateur, en fait.
Ah, d'accord.
Donc, Canal Blog, la plateforme qui supporte le truc, permettait de stocker des photos dans des albums, bien ordonnés et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et peu à peu, j'ai étoffé les sujets, j'ai créé de nouvelles rubriques. Bon, il y en a une qui est un peu particulière, comme la rubrique problème, par exemple. Mais il y avait aussi des actualités dans le Var, des actualités internationales. Et beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires vécues dans le Var et dans la région PACA en général.
D'accord.
Et c'est étoffé peu à peu. Ça a connu pas mal de succès parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était pas si fréquent. Je suis parti en même temps, je crois, que Échec et Stratégie de Philippe Dornbusch, qui était un blog encore à l'époque. Alors maintenant, c'est un site. Il y avait aussi Échec Variable dans le 06 par Yvan Poirier. Bon, qui a arrêté depuis, mais mon blog est quand même, l'espérance de vie d'un blog est assez limitée quand même, le mien survit, mais bon, c'est pas toujours évident, voilà. Et c'est les échecs en général, mais assez accentué quand même sur la photo et aussi sur la composition.
Oui, donc la composition, oui, bien sûr. Et alors, est-ce qu'il y a eu des grands moments d'actualité ou de relais de ton blog? Quels ont été les grands moments qui t'ont...
Je crois que le gros coup médiatique que j'ai eu, c'est avec mes statistiques feed. Ouais. Je m'étais amusé à faire, parce que je suis développeur, un programme qui faisait une lecture séquentielle, tu sais, des fichiers feed du Hello.
Oui.
Posé par la Fédération Internationale tous les mois désormais. Et qui te retournait toute une série de compteurs, à la fois sur le sexe, l'âge, les titres, le classement Elo de tous les joueurs, les ordonnait sur une feuille, sur un tableur. Et à l'époque, ça avait été repris par Léo Battesti, en pleine période d'élection présidentielle à la FID, pour leur écrire, bon, j'ai été considéré comme un brûlot, et il se servait de mes statistiques pour argumenter son article. Et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était en 2010 d'ailleurs, c'était juste au début de Chronique d'un joueur d'échecs.
Oui.
Et j'avais retrouvé des traces carrément sur le blog du New York Times dans une revue économique indienne aussi. Enfin, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque.
Alors pour
le gros coup d'éclat de mon blog. Sinon, c'est en fonction de la... C'est très ponctuel, en fait. C'est en fonction de l'actualité.
Pour quelle raison ça a fait beaucoup de bruit, à ton avis? Quel a été le déclencheur?
Le déclencheur, c'est qu'en fait, maintenant, c'est toujours assujetti à la valeur des fichiers, hein, de la FIDE. Mais en fait, moi, je sais que je m'étais aperçu, par exemple, que avant une élection présidentielle à la FIDE, tu avais plein de petites fédérations qui apparaissaient, notamment africaines. Et puis, dès les élections terminées, disparaissaient, comme ça, du jour au lendemain. Alors, tu sais qu'une fédération, c'est un vote.
Oui.
Donc, ça avait fait, ça prêtait à polémique. Et puis, il y avait aussi une question de répartition entre les volumes de joueurs d'échecs et les fédérations, quoi. Il y avait, je me souviens plus trop de la teneur de l'article, qui était très bien fait de Léo Battesti.
Oui.
Il avait été reproduit sur Échec et Mat à l'époque.
Oui.
La revue de la fédération.
D'accord.
Donc, lui, il mettait le point sur, il mettait surtout l'accent sur tout ce qui est cette disproportion entre le nombre de joueurs et les fédérations et la répartition géographique, en fait.
Ce que tu nous dis est très intéressant, et peut-être cette émission sera l'occasion de ressortir cet article pour Léo Battesti, qui sans doute écoutera l'émission, ou pour la Fédération française, ou toi-même sur ton blog, pour en reparler un petit peu, parce qu'effectivement l'histoire de la FIDE et de son mode électoral fait débat depuis les années 80, depuis Campomanes, en fait. C'est Campomanes qui a à la fois étendu le nombre de fédérations membres, mais aussi du coup effectivement, distordu le fonctionnement démocratique du système, puisque des fédérations comme la Russie, qui est la première fédération mondiale, comptent autant de voix que la fédération des îles Vierges britanniques, alors qu'ils sont 10, et qu'il y a 10 joueurs. Voilà, donc
c'est un peu le genre de problématique qu'il y avait. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a un gros boulot, la feuille de tableur est énorme, en fait, c'est plusieurs feuilles. Ouais. Alors l'article est toujours sur mon blog, mais par contre, je ne peux plus télécharger le fichier, il faut me le demander. Donc ça, il suffit de me demander sur l'adresse email. Et je devais faire un recoupement avec les statistiques FFE cette fois-ci.
Ouais.
Il y avait un accord de principe et ça ne s'est jamais fait, en fait.
D'accord. Ah, donc c'est du boulot, ça, hein. Ça, c'est un aspect quand même. Donc ça, c'est ton côté informaticien, alors, en fait.
Oui, absolument, parce que je suis informaticien de formation.
Oui.
Et j'aime beaucoup développer. C'est pas un truc très difficile à faire, mais enfin, ça demandait beaucoup de vérifications, notamment au niveau des compteurs en question, parce qu'il y avait pratiquement 300 000 compteurs. Donc c'est pas rien, quoi.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Rien. Et à l'époque, moi en plus, j'avais fait ça pour m'amuser, limite. Et c'est Bernard Ramazzotti, qui est très au fait de l'actualité internationale, c'est un pilier des échecs varois, Bernard Ramazzotti.
Oui.
Et qui m'a dit: Fabrice, tu devrais pas le garder dans un tiroir comme ça, d'un dossier de ton disque dur, tu devrais le publier. Et effectivement, il avait raison, ça a fait beaucoup de bruit.
Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a eu d'autres grands moments sur l'histoire de ce blog? Est-ce que tu te rappelles des moments d'actualité?
L'autre grand moment, mais cette fois-ci, celui-ci, il est négatif, c'est quand on m'a scratché la première version, quoi.
Ouais.
J'ai bien cru que j'allais arrêter, et c'est mes lecteurs qui m'ont dit: non, ce serait donner raison à la personne qui t'a fait ça.
Ouais.
Tu relances ton truc et tu recommences, quoi. Et
tu penses que ça...
Je vais suivre le conseil, parce que si j'ai un peu levé le pied maintenant, je t'avouerai, parce que j'ai d'autres activités, le blog existe toujours.
Et ça,
là, faut que je mette la fiche de varage, là, tu vois, j'y pense.
Et tu es sûr que c'est une attaque...
Tu
es sûr que c'est une attaque malveillante qui...
Je crois, oui, parce que je vois pas, franchement, du jour au lendemain, le blog a disparu. Alors, Canal Blog avait bien des archives, voilà, il fallait tout remettre en forme, tout, donc j'ai préféré relancer un autre truc.
D'accord.
C'est très simple à mettre en œuvre sur Canal Blog, tu sais, c'est le traitement texte amélioré, quoi, en fait, maintenant, les blogs. Mais il y avait trop de boulot à rattraper, parce qu'il y avait déjà 5 ans derrière, hein.
Oui, bien sûr. Alors, je peux quand même forcément ici parler de WordPress, parce que tu l'utilises pas encore, je crois pas. Hein, mais WordPress permet quand même d'avoir une grande souplesse aussi, hein, pour de mise en ligne, tout en étant
logique. Oui, j'en ai entendu parler, je connais un peu, oui.
Voilà, et le grand intérêt, c'est que tu gères toi-même tes archives, et si ton blog est scratché quelque part, c'est pas grave, mais tu réinstalles WordPress, tu re-uploades tes archives, et puis il s'est rien passé. Donc en fait, c'est un grand avantage de détenir son propre système de mise à jour de blog. Alors il y a WordPress, ou alors il y a Joomla. D'ailleurs, en faisant le tour des ligues sur Fréquence Diagonale, on a vu que les ligues avaient adopté Joomla, certaines, et puis d'autres.
Oui, en plus, je crois Joomla, parce que j'utilisais au collège. Ça,
voilà. Oui, c'est vieux aussi, comme WordPress. Alors WordPress a peut-être un peu pris le dessus aujourd'hui, même complètement, je dirais, sur Joomla, qui était aussi un bon système. Mais bon, WordPress a un peu gagné la bataille, mais Joomla continue à être aussi une excellente plateforme aussi de publication. Alors, peut-être aussi, tu auras bien plus tard, pourquoi pas, une adresse en propre, parce que pour l'instant, tu es toujours chez un hébergeur, en fait, en termes d'adresse.
Oui, j'y ai pensé, imagine-toi. J'y ai pensé notamment pour mon site de photos, parce que j'ai pratiquement 5000 photos en ligne sur un autre blog qui est les chroniques du joueur d'échecs, les photos.
Oui.
Là, c'est des photos pas forcément de joueurs très connus. Hein. C'est, tu sais, quand je fais un rapide, un tournoi quelconque, j'ai toujours mon appareil photo avec moi. D'ailleurs, je passe plus pour un photographe maintenant que pour un joueur. Et c'est surtout les mamans qui viennent me voir pour que je prenne leur Milo en photo. Ça, elles adorent.
Ouais.
Mais j'ai pratiquement plus de 5000 photos maintenant. Donc, j'avais pensé les basculer soit sur Instagram. En fait, tu sais, t'as des sites dédiés pour la fin des photos.
Oui.
Ou faire moi-même mon truc, quoi, effectivement. Ouais.
D'accord.
Et là encore, c'est beaucoup de boulot. Et comme j'ai repris au tribunal, c'est pas évident, quoi.
Oui. Ah oui, alors pour rappeler.
Il y a eu le bouquin entre temps.
Alors pour reprendre, on va dire, tu reprends au tribunal, on va expliquer aux auditeurs que c'est pas parce que t'es en repris de justice. C'est pas.
Non, j'ai rien à me reprocher au niveau de la loi. Je suis vacataire au tribunal de grande instance de Draguignan et je travaille au bureau d'ordre pénal.
Voilà.
Et je fais aussi, je fais même du déménagement parce qu'en ce moment, ils sont en travaux. Donc,
voilà. Donc tu travailles au tribunal, ce qui.
Donc c'est des petits contrats, mais l'avantage pour moi, c'est que je peux arrêter quand je veux. Et reprendre, ben, par exemple, il faut que je fasse le tome 2 de mon livre ou me remettre sur autre chose, quoi.
Ouais, d'accord. Donc c'est bien, ça te laisse une grande liberté.
Exactement, c'est ce que je recherche avant tout.
Voilà, maximiser ton temps libre pour pouvoir.
Même si je galère parfois, mais enfin ça fait partie des contraintes.
Ouais, bien sûr. Donc cette histoire, donc alors le crash du blog, cette histoire des statistiques internationales FIDE, avec donc un article qui a été repris, des analyses, des statistiques qui ont été reprises. Et alors, et sinon, pour éclairer un peu les auditeurs, avant qu'ils aillent sur ton blog, parce qu'ils vont y aller, c'est sûr, aller visiter ce magnifique blog très riche en contenu, hein, chronique d'un joueur d'échecs, d'ailleurs avec beaucoup de liens, c'est un blog très généreux, qui fait beaucoup de liens vers d'autres sites.
C'est des recherches systématiques, et ce que je recherche avant tout, c'est des blogs qui sont actualisés.
Voilà, des blogs actualisés.
Donc... J'ai mes propres critères de qualité. Bon, t'as la... Moi, il y a deux mots pour moi, qui sont deux maîtres mots quand tu es blogueur. C'est le plaisir et l'originalité.
Oui.
Si tu prends plaisir à faire ce que tu fais, le lecteur va le ressentir. Et l'originalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de faire du copier-coller, même si parfois tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, quand tu reproduis un événement international, tu ne peux pas te permettre de déformer l'information.
Oui.
Tu fais du copier-coller. Mais toujours dans la mesure du possible, faire quelque chose d'original. Et ça passe notamment au niveau de la présentation, de ta charte graphique de ton blog, mais aussi, surtout au niveau de la rédaction.
Mm.
Parce que t'as des blogs, bon, c'est parfois une catastrophe au niveau du français. T'en as d'autres qui sont un peu plus tenus quand même.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est mes critères de qualité. Et t'en as d'excellents comme ça. Bon, moi, j'aime beaucoup, par exemple, celui de Stéphane Escaffre, arbitre au voyage.
Oui, qui est très drôle.
C'est pétillant, c'est intelligent, c'est documenté. C'est quelqu'un qui est dans le milieu, je veux dire, qui connaît bien. Il est directeur de ligue. Stéphane, il est écrivain, il est arbitre, il est formateur. Donc, il y a quand même un énorme contenu et c'est bien fait. Même si la présentation est assez simple, c'est bien fait. Bon, il y a aussi Christophe Bouton, c'est ça, qui est bien écrit aussi. Tu as quelques blogs comme ça qui se distinguent. Et c'est toujours ce que je recherche.
Oui, tout à fait, d'accord. Oui, c'est normal. Hein,
et
c'est...
dans tous les domaines, parce que tu as des blogs sur l'informatique, tu as des blogs, par exemple, celui d'Olivier Smith sur la composition, ou tu as Maroc Échec, tu as beaucoup de choses comme ça.
Voilà, et tous ces liens, on peut les trouver depuis ton blog. Voilà.
Sur la cartouche, sur le cartouche de droite, oui, absolument.
Voilà, donc ça aussi, c'est bien, c'est quand on a un blog comme ça qui est... très connecté depuis longtemps, mais en général c'est aussi une bonne porte d'entrée pour découvrir des choses qui ont été repérées avec soin justement,
je mets toujours à jour, je vérifie très régulièrement mes liens et je mets à jour le cartouche de droite, donc là où il y a tous les liens, parce que je veux des trucs qui soient actualisés, quoi.
Voilà. Et en plus, en visitant.
C'est une espèce de partenariat, tu sais, entre blogueurs.
Bien sûr.
Je mets ton info, tu mets la mienne, je fais un lien sur ton article et vice versa, quoi.
Ouais, tout à fait. Ou alors on peut aussi. D'ailleurs, j'ai inclus le flux RSS de Chronique d'un joueur d'échecs
j'ai ton lien, mais par contre, j'ai pas le flux RSS, je crois pas. Il y a pas trop de flux dans mon truc.
Voilà, oui, non, les flux. Ah, les flux, faut savoir les gérer aussi. C'est important, les flux. J'insiste sur les flux. Voilà.
Enfin, ça se gère pas la même façon. Oui.
Les flux RSS, ça demande des plugins en général. Voilà, justement. Alors, c'est là où WordPress est incomparable parce qu'ils sont déjà développés en général et c'est assez facile à installer. Donc, la partie informatique est réduite vraiment au minimum, quoi. Donc.
Enfin, je sais, c'est pas difficile à mettre en œuvre. Hein. Tu sais, quand j'ai découvert ça en 2005, c'est un collègue de travail. Je travaillais dans un collège de Draguignan. C'est à moins de taper directement de l'HTML pour modifier ton template, l'apparence du blog. Sinon, c'est du traitement de texte. Hein. C'est pas très très dur. Hein. Quand tu vois les éditeurs maintenant, c'est très facile de faire un blog. C'est pour ça que c'est en fait la partie la plus ardue. c'est le contenu, c'est alimenter constamment le contenu, faire des choses originales.
Bien sûr, alors il y a des petites astuces à connaître aussi quand même. Si on veut insérer, bon, c'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, il faut se former un peu. Insérer des tags pour mettre une vidéo ou pour mettre justement un podcast comme Fréquence Diagonale,
oui,
qu'on
oui,
peut mettre aussi.
Ouais.
Voilà, il y a, bon, c'est pour un informaticien, c'est simple, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, bon, il faut quand même écrire un peu de code HTML. Voilà, alors c'est
voilà,
pas.
Moi, je faisais de la formation moi, au collège parce que j'avais des élèves qui adoraient ça, évidemment.
Ouais.
Bon, c'était des blogs sur les mangas, des blogs sur l'informatique aussi, des choses comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de formations au niveau élève, mais aussi adulte, avec les profs notamment. Et bon, bah, ça rentre vite, hein, généralement. Et puis une fois qu'on maîtrise l'outil, après on prend plaisir à le faire. Parce que c'est vrai que c'est une fenêtre sur le monde. Hein.
Oui, oui, oui.
Si jamais ton blog est reconnu et puis que tu es lu, moi je sais que j'ai des très vieux lecteurs dans le Var surtout.
Oui.
C'est quand même un plaisir, quoi.
Et puis on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement aussi.
Exactement, ça c'est vrai. Il m'est arrivé de faire des rencontres absolument vraiment, vraiment très intéressantes et enrichissantes grâce au blog.
Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Donc alors, régulièrement, disons, quelle est l'actualité, disons, à peu près régulière qu'il y a sur le blog? C'est quel type d'actualité? Quel type
de... Si tu parles de l'actualité varoise, j'essaie de faire toujours de mettre à jour des annonces de tournois parce qu'on a quand même un circuit rapide qui est assez développé dans le Var.
Mm-hmm.
On
va en parler après.
Un circuit rapide de 8 étapes.
Oui, on va en parler.
La prochaine, c'est Draguignan le 26 avril, le fameux tournoi des fous.
D'accord.
Mais il y en a d'autres qui se grèvent, qui ne sont pas forcément partis du championnat, comme Varage, là, il faut que je mette la fiche.
Ouais.
On a quand même pas mal de choses dans le Var qui sont intéressantes au niveau rapide. C'est la partie cadence longue qui blesse un peu, mais ça va s'améliorer, je pense, parce que là, au mois de juillet, on va avoir la Farled.
Oui.
On lance un Open International, enfin, le comité varois des échecs lance un Open International. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, et ça, vraiment, j'y tiens, Draguignan lance son propre Open International. On a une salle magnifique à Draguignan, le complexe Saint-Exupéry, et on pourra accueillir beaucoup de monde. Ça, j'attends ça avec impatience. Donc, en cadence longue, cadence feed, homologué feed, bien sûr. Hein.
D'accord. Donc, en plus, là, on a une information en primeur. Là. Il y a peut-être...
voilà, oui. Enfin, je ne confirme pas pour le Draguignan, mais on fait tout pour. On a un président de club, Thierry Benda, qui est très actif et qui se bat au niveau de la municipalité pour faire ce qu'il faut, quoi, pour avoir ce qu'il faut.
D'accord, on va revenir sur cette histoire de tournoi, bien sûr, parce que ça va faire l'objet de notre seconde partie. Donc tu parles de l'actualité varoise régulièrement, et est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu développes?
Ah bah oui, par exemple, là, au niveau composition, moi tu sais que j'ai commencé les échecs en tant que problémiste, pas en tant que joueur. Hein.
Voilà.
Donc j'avais une vision un peu particulière au début du jeu.
Ouais.
Mais là, bon, je suis bientôt juge, moi, Maroc Échec 2015, le concours de composition qui est orchestré par Abdelaziz Onkoud, le maître international.
Oui.
Je suis juge pour la section de coups, la date limite d'expédition des problèmes, c'est le 30 juin, donc ça finit beaucoup bientôt. Et là, j'en parle aussi sur le blog, là, donc j'invite tout le monde à envoyer ses petits problèmes. Donc il y a ça, il y a beaucoup de choses aussi, genre, qu'est-ce que je peux te dire encore? Parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus, tu vois.
Ouais. Oui, oui, c'est riche.
Non,
hein.
Mais là, actuellement, en ce moment, je fais beaucoup, tu sais, tout ce qui est annonce de tournoi, parce que j'ai plus le comme j'ai repris au tribunal, j'ai plus forcément le temps. Ah, j'ai mis l'affiche, c'est très belle, elle est magnifique cette affiche du film Le Tournoi qui sort bientôt.
Oui.
Ah, ça, on va aller le voir en bande, là, tout le club, on va débarquer au cinéma. Je couvre beaucoup, il y a beaucoup de photos aussi en ce moment, hein. Il y a beaucoup de photos, je fais une couverture photo systématique dès que je peux des tournois, même de national, hein. Donc il y a beaucoup de photos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a le trophée Axève, tu sais, c'est un trophée varois, on souligne les performances, de joueurs de le trophée Axève. Ça s'y met en œuvre par Bernard Ramazzotti, mais je suis juge aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses d'un genre là, tu vois.
D'accord, alors c'est
Là, j'ai un peu levé le pied quand même par rapport à une époque où il m'arrivait de mettre 3 à 4 articles par jour.
Oui.
Là, j'étais vraiment. Je fais de Dieu là, mais là, bon, je peux plus maintenant, j'ai plus le temps.
Alors, c'est une très bonne transition, ce que tu nous dis, pour aller sur la deuxième partie de l'émission. On fera une pause aussi au milieu parce qu'il faut que l'auditeur se repose, mais là on va quand même enchaîner avec bien sûr l'actualité aussi locale, parce que c'est aussi ça Fréquence Diagonale, c'est parcourir la France aussi pour savoir comment localement le jeu d'échecs se développe, et puis aussi que les auditeurs sachent que pas loin de chez eux ou des endroits où vous voudrez aussi aller en vacances, eh bien il y a aussi des événements échiquiens de grande qualité. Donc on va parler du calendrier, donc tu en as parlé déjà un petit peu, mais là on va le détailler, hein. Le calendrier du Var que tu dois bien connaître et éventuellement l'étendre pour les joueurs du Var en particulier, mais aussi de plus général à la région PACA pour les événements qui comptent au fil de l'année, les événements réguliers et puis éventuellement exceptionnels s'il y en a. Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de l'actualité, de le calendrier, enfin comment en tout cas est organisé le calendrier local, y compris pourquoi pas, hein, si tu les connais, les dates d'organisation des championnats aussi jeunes, hein, championnats jeunes départementaux, régionaux, pour aller au championnat de France. Et puis les autres tournois, alors est-ce qu'il y a des parties lentes, des parties rapides, voilà. Donc d'abord le VAR, comment ça se passe dans l'année, quel est le calendrier de l'année?
Ben, je pense que comme dans toutes les ligues, enfin les départements, on a toutes les compétitions qui tournent autour des jeunes. Donc là je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu les phases de qualification, j'essaie de rechercher l'info parce que je m'en souviens plus trop. On a évidemment tout ce qui est national jeune. Et moi, l'actualité à mon niveau pour le VAR, c'est surtout le calendrier du championnat rapide, quoi.
D'accord.
Des choses comme ça. Là, la N4, parce que moi je joue à N4, je ne suis pas un fort joueur, hein, bon, j'ai une fois dépassé les 2000 points et l'eau, je crois. Est bientôt fini parce qu'on a joué l'avant-dernière ronde. Bon, c'est pas encore cette année qu'on se qualifiera en N3 à Draguignan, on essaiera de faire ça l'année prochaine. Mais c'est surtout au niveau du calendrier rapide qui est assez étoffé que je tourne, moi, à ce moment.
D'accord.
Donc là, prochainement, on va avoir Draguignan le 26 avril, donc le tournoi des fous. Après, il y a Olioul le 1er mai,
Fabrice, pour ces tournois, ouais. Ce qui serait bien, c'est que, alors tu nous donnes la date, c'est bien, mais il faudrait que tu nous donnes exactement, si tu la connais, la cadence, ou approcher, pour que les auditeurs sachent.
C'est plus rapide, là.
Et voilà, la cadence, le nombre de rondes, et puis une idée de l'audience. Est-ce que c'est des tournois qui font 100 joueurs, 200 joueurs, 400 joueurs, voilà, à peu
en
près.
En général, ils font tous 100 joueurs, et puis la cadence, c'est 15 minutes plus 5 secondes par coup.
D'accord.
Voilà, donc c'est ça, donc 15 minutes plus 5 secondes par coup.
Avec combien de rondes ?
On a parfois des forts joueurs qui viennent. Bon, on a eu Alexandre Bacro là dernièrement, un rapide.
Ouais.
On a eu Christian Boer, il y a Mathieu Cornet, Fabien Libizeski, qu'on voit dans le film Le Tournoi, là, qui va bientôt paraître.
Ouais.
On a quand même des forts joueurs, le circuit rapide est assez réputé quand même maintenant.
D'accord.
Mais je ne suis pas au fait vraiment des... Pour ce qui est des jeunes, je suis moins pointu, tu vois, par exemple. Ma source, c'est Bernard Amazotti sur le site de l'Axev. Mais là, j'ai plus de difficultés, tu vois.
D'accord. Alors bon, pour le rapide, tu nous dis Draguignan le 26 avril. Et est-ce que les dates des autres rapides, alors c'est quoi?
Alors, le Draguignan le 26 avril, le tournoi des fous, donc pareil, 15 minutes plus 5 secondes par coup. On attend une bonne centaine de joueurs. Après, tu as Olioul, traditionnellement. C'est à peu près à chaque fois, chaque année, le même tournoi. Donc là, c'est pareil, c'est la même cadence, c'est du rapide.
Mais c'est quand?
Après, il y a Fréjus Saint-Raphaël le 21 juin.
Oh, ouais.
Brignoles le 25 mai et les Arcs le 14 juin. Alors c'est toujours 15 secondes par coup et c'est en gros une centaine de joueurs. Alors certains font tournoi A et B, tu sais, pour les minots, mais c'est pas tous. Et il y en a un autre qui fait pas partie du championnat rapide, qui est le Varage au mois de juin, pareil, le 26 juin, je crois, ou le 28.
D'accord. Et tous ces tournois donc se passent tous d'avril à juin, il n'y en a pas d'autres en septembre, octobre, il n'y a pas de tournoi.
Non, c'est assez resserré au niveau du calendrier, hein. Ça suit un peu le calendrier fédéral en fait. Hein.
D'accord.
Et donc on va le premier a eu lieu en septembre, il est un peu en avance par rapport au calendrier fédéral, c'était Sanary, et ensuite il y a eu hier le 30 novembre.
D'accord, donc c'est voilà, donc il y a, d'accord. Bon, il y en a quand même.
Okay, c'est... Ah, il y a 8 étapes au championnat du VAR rapide, mais tu as d'autres tournois qui grèvent dessus, pareil, dans les mêmes cadences et les mêmes dispositions, quoi.
D'accord, et ce championnat du VAR rapide, où c'est qu'on peut retrouver ce calendrier, sur quelle adresse?
Tout simplement sur le site du comité varois des échecs.
D'accord.
Sur Google, sur un moteur de recherche, pardon, tu tapes comité varois des échecs,
ouais.
Tu as circuit rapide tout de suite.
D'accord.
Tu as le championnat du VAR rapide tout de suite.
D'accord, et là, donc on a toutes ces dates avec
toutes
ces lieux.
Toutes les infos avec les affiches et les résultats et le classement provisoire.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez un championnat rapide basé sur des étapes de tournois. Donc si on fait tous les tournois.
Qui sont très bien organisés parce que maintenant, on a vraiment des gens qui connaissent le truc, hein, depuis le temps. Et puis, au niveau du comité varois des échecs, c'est des gens qui sont en place depuis très longtemps, qui sont assez actifs quand même. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
D'accord, très bien. Bon, mais écoute, ce que je te propose, Fabrice, c'est qu'on fasse maintenant notre pause musicale, hein, pour que l'auditeur puisse reprendre son souffle, hein, parce qu'on a beaucoup d'informations d'un coup dans cette première partie. Et puis, on reprendra sur cette histoire de calendrier, peut-être pour étendre dans la région PACA. On parlera sans doute du Festival des Jeux, que tu connais bien.
Oui.
Et puis, enfin, oui. On parlera de ton livre.
Hein,
de ton livre dont tu nous parleras en long et en large en dernière partie. Donc, alors, est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Fréquence Diagonale?
Sont libres de droit, tu m'as dit.
Ouais, elles sont libres, surtout sous licence libre, voilà. Alors ouais, c'est pas libre de droit, parce que licence libre, c'est pas, il y a quand même des droits associés, mais c'est des droits permissifs.
Ouais.
Voilà, c'est à l'inverse des droits non permissifs. Voilà, donc,
d'accord, tu vois, j'ai beau travailler dans un tribunal, je suis pas au fait de ce genre de... Je suis intéressé à la chose pour mon bouquin, mais je crois que ça va pas plus loin, tu vois.
Oui, d'accord. Donc, alors, c'est comme les logiciels libres, GNU Linux, justement WordPress dont on a parlé, qui est sous licence libre aussi, et tout un tas comme ça de choses que des créateurs mettent sous licence libre plutôt que sous licence non libre. Voilà. Donc, cher auditeur, une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Fabrice Touvron, pardon, l'auteur du blog donc Échec et Fat, chronique d'un joueur d'échecs. À tout de suite sur Fréquence Diagonale. Thank you. voici de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Fabrice Touvron, chronique d'un joueur d'échecs, Échecs et Fab, le blog star dans le Var, le blog qui nous parle, eh bien, on l'a vu hein, dans cette première partie, de beaucoup de choses, qui fait des analyses, on a vu, des analyses techniques pointues, y compris des statistiques au niveau Fédération Internationale, des statistiques de Fédération dont il nous a parlé, et qui fait aussi l'actualité du VAR, bien entendu, l'actualité du jeu d'échecs, des rubriques sur des tournois, et puis aussi de la composition d'échecs, puisque Fabrice est compositeur d'échecs, et aussi photographe, voilà, beaucoup de photos. Donc un contenu très riche, et puis aussi beaucoup de liens vers des blogs qui comptent, si vous ne connaissez pas les blogs riches et originaux, puisque Fabrice et Liam, donc les blogs originaux, et bien si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez sur le site de Fabrice, et vous avez beaucoup de liens vers des sites que vous allez découvrir, des blogs tenus à jour et qui vous présenteront le jeu d'échecs sous un jour nouveau et original par des auteurs passionnés. Voilà. Donc, alors, Fabrice, on parlait du calendrier du VAR. On a vu, surtout avant tout, beaucoup de tournois rapides donc, et un championnat rapide. Alors, tu nous avais dit aussi en début d'émission qu'il y avait des Open de parties longues et sans doute aussi, donc bientôt, l'an prochain, un nouvel Open qui aura lieu, qui sera organisé dans ta ville à Draguignan. Hein.
Oui, par l'échiquier de Racénois. Oui, alors normalement, c'est prévu l'année prochaine, si tout se passe bien, tout est en train de se mettre en place. On a la salle, normalement. Enfin, peut-être que je m'avance, parce que bon, mais je sais que notre président fait tout pour. Et on a aussi donc cet espoir donc d'avoir de rameuter, si j'ose dire, des forts joueurs. Parce que bon, ben, vu la qualité d'organisation du tournoi rapide, le tournoi des fous. Donc c'est la même équipe qui organise, hein, l'équipe de bénévoles de Thierry. Donc je pense qu'on aura du monde quand même. Ça va être sympa, je pense. On fait tout pour.
D'accord.
Alors ça manque un peu les Open cadence longue dans le Var.
Voilà. Mais vous êtes alors, voilà, vous êtes aussi dans la région PACA, donc. Tu nous as parlé d'ailleurs de Stéphane Escaf, qui en est actuellement le président, qui a été aussi, on le sait, hein, directeur national de l'arbitrage, hein, qui est un arbitre d'excellente tenue. Hein. Je crois qu'il est apprécié de tous les organisateurs.
Alors, moi, j'apprécie beaucoup.
Ouais. Et donc, alors, en région PACA, on sait qu'il y a beaucoup de tournois, parce qu'on sait aussi que eh bien, Damien Levasic a fait beaucoup pour les échecs dans la région, et qu'il y a l'Open, bien sûr, international de Cannes, le Festival des Jeux de Cannes, qui est quand même un moment phare dans l'année. Et puis, il y a d'autres moments aussi que les joueurs varois doivent être friands hein, dans la région.
Ben, moi, je sais que principalement, je sais que c'est surtout le Festival des Jeux à Cannes, oui. Qui a lieu, en fait, il y a le celui d'été et celui d'hiver. Donc, je sais que je vais certainement refaire celui du mois de juillet, vu la qualité de ce que j'ai vécu en février, pardon.
Oui.
Donc, oui, il y a au mois de juillet. Il y en a deux, je crois, me semble-t-il. Hein. Il y a deux éditions par an, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, du tournoi d'échecs, pas du festival des jeux.
Oui, du tournoi d'échecs. Voilà. Je parle bien du tournoi d'échecs, parce que t'as tout à côté. Il y avait des Playmobil géants qu'on a été joués.
Ouais. Parce que le festival des jeux, donc, c'est la réunion de beaucoup de jeux, hein, c'est ça.
Oui, t'as tout. T'as les jeux de rôle, t'as les jeux classiques, en passant même par les jeux de cartes. T'as vraiment de tout. Hein. T'as beaucoup d'animations, t'as des professionnels, t'as des stands qui sont très, très riches, très documentés. C'est vraiment un truc à voir.
D'accord.
Beaucoup de monde, d'ailleurs, de toute façon. Hein.
D'accord. Et tu l'as fait cette année? Tu l'as joué, en fait, cette année?
Alors, j'ai joué cette année, on a fini en février. Là. Bon, pour moi, c'était un tournoi catastrophique, parce qu'en fait, je joue peu. Je fais un tournoi dans l'année, et puis à part les 7 rondes de N4, je joue pas beaucoup. Donc, effectivement, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Hein. Donc, ça a été très dur. J'ai fait quelques parties intéressantes, mais je suis tombé sur beaucoup de jeunes, dont le vélo n'est pas forcément très significatif, et j'ai fait 3,5 sur 9, c'était une catastrophe. Par contre, j'ai eu le plaisir de rencontrer des tas de lecteurs de mon bouquin, et ça a été très sympa.
D'accord, sur lequel on va revenir juste après. Donc, au niveau des autres, est-ce qu'il y a d'autres événements, PACA, quand même, qui comptent un peu, ou à part celui de Cannes?
Bah, au niveau, si tu parles des tournois à cadence longue, c'est surtout le Festival des Jeux. Hein.
D'accord, mais il peut y avoir aussi des rapides importants, je ne sais pas, dans la région
Dans la région, oui, dans le 06, j'imagine qu'ils ont comme nous un circuit rapide, mais par contre, on n'est pas très informés. Hein. J'ai pas de. D'ailleurs, Bernard le dit sur son site, pour avoir des informations du 06, c'est pas évident.
Donc il y aurait un problème de communication en région PACA, tu es en train de nous dire.
À mon sens, oui, parce que je suis en train de chercher justement, parce que Bernard, qui est très au fait de l'actualité des calendriers, il a même beaucoup de mal à avoir Les prochains tournois du 06, aucune annonce pour l'instant, donc c'est pour te dire.
Mais il n'y aurait pas une obligation quand même de résultats et de communication? Tu pourrais pas porter une plainte au tribunal là pour...
Non, je ne me permettrai pas. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, alors, peut-être que c'est moi qui ne suis pas cherché, hein. Mais généralement je sais quand même.
Donc tu as l'impression quand même que donc, ça manque d'informations sur les tournois en PACA, sur ce qui se passe à la fois tant au niveau des rapides
que... Oui, c'est un regret, oui. Je sais que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver l'info à ce niveau-là, oui.
D'accord. Alors tu nous as pas du tout parlé, et je pense que c'est l'occasion quand même d'essayer de voir ce qui se passe, tu nous as pas du tout parlé de Blitz, alors que quand même depuis quelques années, le format Blitz tournoi maintenant se développe de plus en plus. Alors, on a toujours joué au Blitz, bien sûr, dans les échecs, mais le Elo, maintenant Blitz, se développe avec un tournoi officiel, il y a un challenge national, fédéral, maintenant, de Blitz. Notamment, bon, on peut le voir, enfin, donc sur Paris, moi, puisque je connais bien Paris, je vois bien que les tournois de Blitz, il y en a plus qu'avant. Et bon, c'est toujours intéressant de faire des Blitz, c'est rapide à faire, on peut faire ça dans une soirée, c'est sympa. Bon, et là, tu nous as pas du tout parlé de Blitz. Tu nous as parlé rapide, bon, un peu moins long parce que ça t'intéresse moins, mais et les Blitz, est-ce qu'il y en a ?
On a eu QR l'année dernière, on a eu le championnat de Blitz qui était qualificatif pour, si mes souvenirs sont bons, pour une épreuve supérieure. Attends, je suis en train de chercher. Si, on a eu QR, c'est principalement. Tournoi de QR, où effectivement c'était un cadence Blitz.
C'est où ça, QR ?
Dans le Var.
D'accord, toujours dans le Var, mais je connais pas le Var, donc je demande. D'accord, ok, donc, mais à part ça, non, non, pas plus, d'accord. C'est pas encore très développé.
Non, pas vraiment, non.
D'accord, donc ça, c'était, alors c'est bien, on a vu un peu hein, le calendrier, alors vu depuis ton expérience, c'est normal, hein, en tant que blogueur. T'es pas président de ligue, normalement je m'attends, évidemment si j'ai un président de ligue au bout du fil sur Fréquence Diagonale, je m'attends à ce qu'il soit extrêmement bien renseigné sur tout ce qui se passe.
Oui, je suis pas très pointu dans le domaine comme tu as pu le constater, voilà. Je n'ai pas les calendriers en tête, mais... et je m'attendais pas à ce que tu me poses des questions sur le 06.
Voilà, mais si tu veux être élu un jour président de ligue, il va falloir s'y mettre. Hein. Donc, mais alors donc maintenant on va parler à quelque chose qui te concerne beaucoup mieux et sur lequel tu veux pouvoir nous parler beaucoup plus longuement. C'est ton livre que tu viens donc de sortir, tu vas nous rappeler son titre, son contenu, etc. Et que tu as aussi dédicacé donc à Cannes.
Oui, au Festival des Jeux, oui, avec le stand d'Alain Benloulou, tout pour les échecs. Oui.
Oui.
Alors, donc... c'était le livre, en fait, j'ai pas mal de bouquins à la maison et j'ai beaucoup été influencé par les 150 plus beaux coups, tu sais, d'Aldo Haïk et Carlos Fonassari. C'est un grand succès d'édition et qui est proposé comme ça plusieurs sections où tu voyais une combinaison, enfin une partie commentée par Aldo Haïk et un problème commenté par Carlos Fornassari. Et je sais que ce bouquin, quand j'étais minot, m'avait beaucoup marqué, quand j'étais ado. Et avec le blog où j'écrivais beaucoup, c'est une démarche assez naturelle en fait, j'ai eu l'idée d'écrire un bouquin. Et quand j'en parlais dans mon entourage, la démarche paraissait logique, j'avais des réactions assez positives. Donc je me suis lancé, j'étais au chômage, donc je me suis dit pour occuper mon temps, je vais écrire ce bouquin. Et j'ai eu l'idée de faire 50 sections où je propose une combinaison que j'appelle une amusette, alors qui sont des combinaisons réellement jouées par contre, de tout niveau. Une étude avec des exercices et un problème avec des exercices aussi. Voilà, donc l'idée est venue comme ça. Et qui ne tente rien n'a rien, j'ai eu l'idée, parce que j'aimais beaucoup son travail, d'envoyer un extrait à Olivier Letréguilly, qui est le directeur de publication de Libris.
Oui.
Donc j'ai envoyé 5 sections, qui n'ont plus cette forme maintenant, et il m'a dit, c'est publiable, on peut envisager quelque chose, dans combien de temps tu peux me donner le projet complet? J'ai mis 6 mois à le faire.
D'accord.
6 mois, donc je suis très content du résultat, parce que, en plus... D'ailleurs, je tiens à le remercier, je profite que tu m'en donnes l'occasion, Olivier Letréguilly, parce qu'en fait, je crois qu'il a 80 titres pratiquement maintenant, ou 75, je ne me souviens plus, enfin, on approche des 80, et c'est le premier qui parle de composition. Le partage du roi, donc les échecs artistiques.
Les échecs artistiques, voilà, en fait, le titre du livre, c'est effectivement, je le dis pour les auditeurs, parce que bon, on ne l'a pas assez répété, je le redis, les échecs artistiques est sous-titré, alors le partage du roi. Alors pourquoi le partage du roi?
C'est pas mon approche, justement, parce que pour moi, le titre, c'est le partage du roi.
Ouais.
Et c'est Olivier qui m'a dit, tu sais, si on fait une recherche Google, ce serait bien qu'il y ait le mot échec dedans.
Ouais.
Une recherche sur un moteur de recherche, quoi.
Bien sûr.
Et effectivement, donc j'ai rajouté les échecs artistiques, qui est déjà un titre connu, parce que c'est un titre de Chéron, qui est un grand classique de composition. Et donc, on a mis le partage du roi en dessous. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un sous-titre, alors que pour moi, c'est le titre principal.
D'accord. Mais le partage du roi, pourquoi le partage du roi?
Bah, en fait, c'est le roi noir, le roi martyr des compositeurs. Tu sais que dans une composition, c'est toujours le roi noir qui se fait mater.
Le pauvre.
Voilà. Donc, c'est son roi qu'on partage, qui se relève d'échiquier en échiquier, pour, comme je dis dans l'introduction de mon bouquin, pour la plus grande joie de tous. Quoi.
Ah,
et il y a aussi cette question, aussi, parce que je parle beaucoup d'Europe Échec dans mon bouquin, parce que c'est la source principale, et puis comme j'ai publié mes tout premiers problèmes dans cette revue, et tu sais que la rubrique composition a été retirée avec beaucoup d'autres, comme la philatélie, l'analyse rétrograde, des choses comme ça.
Oui.
Et c'est un regret que j'exprime dans mon bouquin, parce que c'est, on nous retire cette notion de partage du roi, on ne peut plus partager avec la revue. Avec les compositeurs du monde entier, ne peuvent plus partager dans le coin du problème d'Europe Échec.
Ah oui.
C'est un regret que j'exprime tout au long du bouquin, ça. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Il a été publié le 25 septembre, et bon, il se vend pas trop mal, je suis content.
D'accord.
Pour un bouquin d'échec, hein, et surtout de composition, c'est relatif.
Bien sûr, c'est relatif. Mais c'est, je pense que c'est très bien. Alors, la couverture est très jolie aussi, je vous invite à...
Ah oui, ça, j'aime beaucoup. Moi, au début, tu sais, il faut savoir qu'un auteur n'a rien à dire au niveau de la couverture.
Oui.
C'est la prérogative de l'éditeur,
oui.
Et de son illustrateur. Et moi, je pensais à une main tendue avec un roi noir dedans, quoi.
Ouais.
Pas très original. Et en fait, j'aime beaucoup celle-ci. Elle est vraiment très très bien faite. Elle accroche l'œil en plus.
Ouais, ouais, c'est un roi qui peint.
Avec le roi qui fait sa petite peinture, là.
Voilà.
Qui... En plus, ça ramène à une des sections où je parle de Kandinsky. Tu sais, quand Marcel Duchamp dit que tous les joueurs d'échecs sont des artistes.
Oui.
J'explique en fait que c'est pas les joueurs d'échecs qui sont des artistes, mais des compositeurs.
Alors,
et je parle de Kandinsky, de Picasso, justement.
Ouais, faut rappeler tous ces noms, parce que Marcel Duchamp, c'était un artiste français du début du 20e. Hein. C'est lui qui a fait le coup du bidet, c'est ça, dont il a dit voilà, ça c'est une œuvre d'art, un truc comme ça, non, c'est ça?
Oui, voilà.
Ou un urinoir.
Il a cette fameuse maxime, ce fameux proverbe qui est célèbre, oui.
Ouais, ouais. Et mais qui était un grand joueur d'échecs d'ailleurs, Marcel Duchamp, artiste très connu, très en rupture avec l'art du moment, puisqu'il est donc inventé une nouvelle forme d'art, mais aussi qui est donc très grand joueur d'échecs, qui a fait partie de l'équipe de France. Hein.
Je savais que c'était un fort joueur, mais je savais pas qu'il avait un palmarès aussi.
Si, il a fait partie de l'équipe de France, et donc il me semble bien, j'ai un bon souvenir de ça. Je crois bien, et bon, j'ai pas la source là tout de suite, mais si on vérifie, je suis presque sûr d'avoir raison. Mais bon, à l'époque, les joueurs français étaient pas c'est sûr aussi que le niveau en France était encore. On avait perdu depuis Félidor, on n'a pas réussi à revenir au score en quelque sorte. Hein. Enfin, si dernièrement, maintenant, si avec nos meilleurs grands maîtres actuels, on est revenu vraiment.
Dans les grands rendez-vous internationaux, maintenant.
Voilà, maintenant on est vraiment revenu au top, un petit peu comme à l'époque de Félidor, mais entre temps on a beaucoup perdu. Bon, il y a les guerres qui sont passées par là, sans doute, hein, aussi. Voilà, donc il y a eu des dégâts. Alors, mais tu nous parlais aussi, alors, dans ton livre, j'ai noté ça tout à l'heure, il faut absolument que tu... Parce que pour toi, c'est évident, mais pour moi, qui ne suis pas probémiste, ça ne l'est pas. Tu nous as parlé, dans ton livre, qu'il y avait études d'un côté et problèmes de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux?
En fait, on fait souvent le distinguo, ça fait partie de l'énoncé. Une étude, c'est une énoncé du type « Les blancs jouent égale », c'est souvent des études de fin de partie.
Ouais.
Donc il y a un côté pédagogique et didactique qui est évident, parce que c'est par analogie, tu peux retrouver des situations similaires sur ton échiquier quand tu joues.
Oui.
Et par contre, les problèmes, c'est souvent avec des positions très abracadabrantes que les joueurs ont du mal à comprendre, où tu as un énoncé du type les blancs jouent et font battre en 2, 3, voire parfois beaucoup plus.
D'accord.
Voilà. Et tu as des thématiques particulières qui sont développées au niveau du problème. Par contre, au niveau de l'étude, c'est des thématiques de gain qui sont très similaires et même tout à fait identiques à celles de la partie.
D'accord.
Et moi, ce que je voulais proposer, justement, dans la partie étude, c'était justement des positions qui permettaient d'améliorer le niveau d'un joueur dans les fins de partie avec des exercices. Et par contre, dans la partie problème, essayer d'au moins, parce que c'est quand même une... Il y a toute une terminologie particulière, tu sais, toute une approche particulière. Par exemple, le principe d'égalité matérielle en composition n'existe plus du tout. Tu as des positions où tu as un roi seul contre pratiquement toutes les pièces blanches. Et l'intérêt, justement, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution où tu mates en deux coups, malgré l'abondance de matériel au niveau blanc, quoi.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a un souci de correction qui est très pointu. Et tu as des tas de thématiques comme ça qui sont développées, qui au début, d'ailleurs, mais c'est vrai que les joueurs connaissent très très peu, et on a aussi très peu de forts joueurs titrés qui s'intéressent à ça. Je sais que Maxime Vachier-Lagrave est un excellent solutionniste, mais il y a très peu de joueurs qui s'intéressent comme ça à la composition. Donc moi, ce que je voulais, c'était proposer une approche à la fois simple, didactique et en même temps qui accroche, parce que c'est vrai que parfois ça peut paraître rébarbatif.
D'accord.
La composition échiquienne, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Et puis c'est pas la préoccupation des joueurs, parce que tu as plus cette notion, comme dans la partie d'antagonisme entre deux volontés. Tu vois ?
Oui,
on a complètement éclipsé l'antagonisme pour favoriser la créativité.
Oui,
parce
oui,
que
oui.
Comme tu subis plus la volonté d'un adversaire, tu es tout seul devant ton échiquier en tant que compositeur, tu peux faire ce que tu veux, à la condition de respecter les règles du jeu, évidemment.
Oui, c'est-à-dire qu'entre le problémiste et puis les solutionnistes qui essaient de trouver la solution, c'est pas un match, puisque évidemment c'est deux choses différentes, mais,
ah oui.
Mais les deux.
Moi, je suis problémiste, mais voilà. Je ne suis pas un bon solutionniste.
Voilà.
Parce que là, il y a aussi une question de force de jeu. Il faut voir les réseaux de maths, il faut pouvoir calculer.
Oui.
Tandis que c'est moi, c'est un problème, c'est complètement différent, c'est plus le côté créatif.
Et tu penses que là, ça veut dire que la réflexion pour créer un problème d'échec est en partie indépendante de sa capacité à la solutionner alors ?
Bah, c'est avant tout une question de créativité, de connaissance des thèmes, donc on va dire d'érudition échiquienne au niveau de la composition, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Et puis c'est vrai que, quand tu crées, on va prendre un thème simple. Tu sais, quand une pièce joue et qu'elle cloue automatiquement, un roi joue par exemple, et qu'elle cloue en jouant une de ses pièces en défense, on appelle ça l'autoclouage, c'est un thème. Bon, ben ça, tu peux travailler là-dessus et faire un mat en deux sans pour autant être un fort joueur.
Oui, d'accord.
Ben, c'est pas un souci.
D'accord.
C'est pas la force du joueur qui intéresse, c'est avant tout la notion de créativité et de correction, parce que tu as des principes au niveau du jeu,
d'accord.
Au niveau de la composition, pardon.
Donc voilà, donc c'est une extension du jeu d'échecs, cette histoire effectivement de problèmes.
Ah, ça a pris une dimension vraiment à part et spécifique, hein, parce que tu as même les échecs féeriques où on invente une nouvelle pièce.
Bon, oui.
Ça, je l'aborde un peu dans mon livre, mais je me lance pas, j'en fais pas trop de peur de rebuter un peu le lecteur.
D'accord. Donc ce livre se veut une introduction, une présentation et puis aussi un contenu de problèmes, hein, de l'aspect problème avec études aussi, donc études et problèmes. Et donc une incitation aussi, pourquoi pas, à développer une aspiration,
absolument, c'est absolument le but. Parce
vers la problématique. Vers la composition.
J'ai un copain, on allait justement au Festival des Jeux à Cannes, qui m'a fait très plaisir. Qui m'a dit, ton bouquin, je le lis dans le bus, je le lis à la plage, c'est ce que je voulais. Alors, retirer ce côté un peu rébarbatif, faut le dire, parfois qu'on a dans la composition échiquienne, pour en faire plaisir de lire, de résoudre un problème de maths en deux, avec l'arrosage du cavalier, par exemple. Tu sais, quand le cavalier joue tous ses 8 coups.
Ouais.
Voilà, ouais. Des trucs comme ça, c'est des thèmes géométriques qui sont très simples à mettre en œuvre, ou le thème de l'interception, tu sais, quand tu bloques la ligne d'action d'une pièce.
Oui.
Et je commence par des choses très simples. Alors la partie problème, il faut vraiment la lire dans l'ordre des sections, parce que j'introduis progressivement des notions de plus en plus difficiles, enfin de plus en plus complexes, pas forcément difficiles, mais de plus en plus élaborées. Donc il faut bien suivre l'ordre. Et je suis assez content du résultat, en fait, parce que les échos que j'en ai sont assez positifs. Bon, maintenant, c'est toujours pareil, quoi. Quand tu parles de composition, parfois, tu as des réactions un peu bizarres au niveau des joueurs.
Oui.
Ouais, au niveau des joueurs.
Donc,
ça va, il se dit bien, et puis franchement, il est bien fait au niveau de l'impression, parce qu'il accroche vraiment. Il est bien fait, la mise en page est bien faite. Il est très agréable à tenir en main.
D'accord, très bien. Donc, les échecs artistiques, le partage du roi. Voilà, et Fabrice donc avait fait une première dédicace à Cannes, il y en aura peut-être d'autres à d'autres occasions.
Je pense qu'il y a peut-être à Varage ou dans un circuit rapide souvent. Hier par exemple, en début d'année, il y a plein de joueurs qui. J'avais pas d'exemplaires sur moi, j'en avais très peu, mais je les ai tous vendus. Donc tu vois, c'est sympa. Bon, c'est le fait aussi que je suis varois et puis qu'on me connaît ici.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, on va te connaître au-delà, fréquence diagonale.
Oui, voilà, c'est bien. Ouais.
Peut-être que quelques...
Voilà, donc, je suis en train d'écrire le tome 2. C'est moins évident parce que j'ai repris le boulot, mais je m'y mets. Puis j'ai d'autres projets. Je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles fantastiques où on parle beaucoup du jeu d'échecs.
D'accord. Très bien.
Ouais, donc c'est des projets que j'essaie de mener jusqu'à leur terme, mais c'est pas évident, quoi.
Allez, alors pour conclure cette émission, Fabrice, maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment tu vois l'actualité échiquienne du moment et puis l'avenir, comment tu vois les prochaines années depuis ton point de vue de problémiste et puis de blogueur aussi et puis aussi est-ce que alors au niveau des échecs en général et puis au niveau de ton blog aussi en particulier.
Ben moi ce que j'aimerais c'est que justement on parlait de composition, que ce soit quelque chose de plus de plus étendu, que ça se familiarise un peu, que ça se vulgarise, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai proposé par exemple de donner un petit cours, une initiation avec, tu sais, un échiquier mural. Bon, ben, ça n'a pas eu un écho forcément très favorable, donc j'aimerais que ça se développe, ça. Ben, y a beaucoup de sites qui offrent dans ce sens, comme Maroc Échec avec Abdelaziz Onkoud, pardon, qui propose son concours de composition, il y a ça déjà. Puis j'aimerais bien qu'on ait, on parlait du circuit international tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on ait de plus en plus de joueurs comme ça qui soient invités et puis qu'on finisse par en avoir un qui soit candidat quand même. Moi je vois bien Maxime Vachier-Lagrave sortir du lot et puis bon, bah, je sais pas ce que ça donne parce qu'en fait je ne connais pas, mais quand ça me fait tellement plaisir de le voir jouer comme ça au top niveau avec les plus grands, qu'on commence à y croire.
Donc tu veux dire t'aimerais qu'il soit candidat, c'est-à-dire qu'il joue un tournoi de candidat.
Moi, je sais qu'il y a des Chinois qui sont en train de d'éclore, on va dire, enfin d'éclore, de prétendre aussi à aller au plus haut niveau. Il y a beaucoup d'opposition, mais ça c'est naturel.
Oui.
Mais ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Je crois que les échecs français, on en parle beaucoup en ce moment quand même, au niveau international, il y a pas mal de choses. Et au niveau scolaire aussi, on n'en a pas trop parlé. Moi, il m'est arrivé de donner des cours parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation nationale. Et j'aimerais bien que le statut d'animateur change un peu, tu vois, aussi. Parce qu'ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir est-ce que la municipalité, la mairie, va renouveler les crédits, l'enveloppe budgétaire pour les cours d'échecs l'année prochaine. Ce serait bien qu'ils aient un véritable statut au niveau de l'éducation nationale. Tu sais, en ce moment, avec la réforme scolaire, on parle beaucoup de rapprochement interdisciplinaire.
Oui.
On peut très bien évoquer un cours d'échecs maths, d'un cours d'histoire, d'échecs histoire, échecs français, parce que bon, le jeu d'échecs a quand même une certaine littéralité. Tu peux beaucoup écrire sur le jeu et faire de rapprochements à la fois avec les sciences humaines, l'histoire, l'art évidemment. Donc ça, j'aimerais bien quand même que le statut des... Même s'il y a de gros efforts qui ont été faits à ce niveau-là, hein, avec la cité, avec le DAF qui est maintenant systématique, mais qui n'est plus ce côté animateur, mais plus prof. Enfin, ouais. Tu vois, dans certains pays, je crois, il y a certains pays où maintenant, on a bien une heure d'heures plastique dans les collèges par semaine. On pourrait très bien imaginer, par un véritable prof d'échec, une heure d'échec par semaine dans les collèges.
Pourquoi pas.
Plus tu élargis la base, plus tu as des chances que le haut de la pyramide soit haut, quoi.
Oui, mais c'est ça. Alors ça, tu viens de dire le discours de... C'est typiquement le discours de Léo Battesti, ça.
Oui, non, mais bien sûr, quand tu vois ce qu'il fait en Corse, c'est l'illustration parfaite de ce qu'il faut faire, quoi, je pense. C'est-à-dire, quand tu vois tous ces jeunes, là, moi, j'ai fait le festival des jeux, là, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu tombes sur des jeunes, mais t'as l'impression qu'il est en train de t'apprendre le jeu, le môme, quoi. C'est phénoménal, quoi. C'est bientôt 50 piges, je suis désespéré, des fois.
Oui,
sur un minot qui a 11 ans, et puis voilà, quoi. Bah, et c'est pas forcément, il y a vraiment une question de compréhension du jeu. On voit que le môme, il a des cours, il s'applique, et puis voilà, et ça fait toute la différence.
Oui, bien sûr.
Ça, j'aimerais bien que ça se développe aussi à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut passer par un changement de statut, parce que moi, j'ai été animateur aussi dans des... Alors, je dis pas que c'est perçu de façon péjorative, mais parfois, t'as des réactions assez particulières, quoi. C'est un milieu assez corporatiste, l'éducation nationale, et si t'es pas prof, c'est pas évident.
D'accord. Donc ça, c'est le message de conclusion, hein, que tu nous donnes.
Ouais. Donc maintenant, c'est un point de vue tout à fait personnel, hein, en fonction de mon expérience, quoi.
Voilà. Donc on peut donc te retrouver tous les jours, même toutes les nuits, à n'importe quelle heure, en fait, sur ton blog, qui est en ligne.
Oui, j'envoie des messages, oui, des fois que je suis un coucou, moi, je suis un oiseau de nuit.
Ouais.
C'est souvent des nuits blanches.
Donc sur ton blog, toujours en ligne et depuis longtemps, donc très riche, que je vous invite. Moi, c'est un des blogs que je suis de façon permanente, hein, tout simplement, avec les flux RSS. Et puis on a beaucoup échangé avec Fabrice, hein, depuis ces années. On a échangé des mails régulièrement, de temps en temps, sur des sujets pour faire des échanges, des informations ou des conseils aussi. On se crée comme ça des relations et puis on finit par faire une émission un jour sur Fréquence Diagonale. Voilà.
Ouais.
Merci beaucoup Fabrice d'avoir participé à cette émission.
C'est moi Stéphane, c'est moi. J'ai rarement l'occasion de m'exprimer de cette façon.
Merci à vous les auditeurs donc d'avoir écouté Fabrice, chronique d'un joueur d'échecs dans le Var, échec et Fab, et puis allez voir son blog, donc allez découvrir tout ça, l'univers des problémistes, son livre, donc les échecs. Artistique, le partage du roi. Et puis vous allez découvrir donc encore un autre univers du jeu d'échecs avec ça. Et puis beaucoup de liens vers des sites très intéressants. À bientôt sur Fréquence Diagonale. Donc je vous laisse avec notre générique fétiche, évidemment vous le connaissez par cœur, et ça s'appelle Broken Embraces. Au revoir.